Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de notre mini-série sur le modèle des trois planètes. Je suis Isabelle Côté en compagnie de mes collègues Alexandra Vincent et Simon Lapierre. Donc, dans le premier épisode, on vous a présenté le modèle basé sur les travaux de Marianne Hester. On vous a également présenté la situation d'une famille où il y a présence de violence conjugale. Dans le deuxième épisode, la famille atterrissait sur la planète 1. Et dans le dernier épisode, la famille atterrissait sur la planète 2. Dans cet épisode, on se retrouve quelques mois après l'incident pour lequel les policiers sont intervenus et là, la famille va atterrir sur la planète 3, la planète du droit familial. Simon, je vais t'interpeller. Est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement qu'est-ce que c'est que la planète 3?
Bien, lorsqu'on parle de la planète du droit familial, c'est vraiment la planète qui prend toutes les décisions qui est impliquée dans tous les processus concernant la garde des enfants, les droits d'accès, le temps parental. Donc, on retrouve sur cette planète-là, par exemple, les experts psychosociaux, donc les personnes qui réalisent des expertises psychosociales. On trouve le tribunal, la Cour supérieure, les tribunaux de la famille qui prennent aussi des décisions concernant la garde. On va retrouver aussi sur cette planète-là, par exemple, les médiateurs ou toute la question, par exemple, des cours ou des séances de coparentalité. Donc, tout ça se retrouve là, sur la planète du droit familial. Et sur cette planète-là, comparativement aux deux autres planètes où on parlait, sur la planète de la violence conjugale, on parlait vraiment des victimes de violence conjugale, surtout les femmes victimes de violence conjugale. Sur la planète 2, on parlait des victimes, mais surtout en termes d'enfants, victimes de mauvais traitements aux mains de leurs parents. Sur la planète 3, on ne parle plus de victimes, on ne parle plus d'agresseurs. On est vraiment, on met vraiment l'accent sur la famille et sur les relations entre les enfants et leurs parents. Et notre priorité, ben, comme on ne parle plus de violence, on ne parle plus non plus de victimes puis d'agresseurs, notre priorité ici n'est plus en termes de sécurité. On n'est plus axé sur la sécurité des victimes comme dans la première planète. On n'est plus non plus axé nécessairement sur la sécurité des enfants comme sur la planète 2, mais on est vraiment axé sur le maintien des liens entre l'enfant et ses deux parents et sur les parents qui s'engagent dans une démarche de coparentalité à long terme. Donc, on est quand même dans une posture qui est très, très différente de celle qu'on retrouvait sur les deux planètes précédentes, même si on parle des mêmes familles qui ont le même historique de violence conjugale, on est ici dans une posture très, très différente.
Et sur des démarches qui sont parfois en parallèle, là,
qui coexistent. Absolument, absolument. Ouais.
Donc, dans cette situation-là, dans notre situation familiale, on se rappelle, sur la planète 2, la DPJ est sortie du dossier. Madame est partie en maison d'hébergement et le père est absent. Le père est absent, il répond pas. Et on a, sur la planète 2, hein, la DPJ a recommandé à madame de faire des démarches pour régulariser la garde et les droits d'accès. Donc, dans notre scénario, la mère va faire une demande pour officialiser tout ça. Mais là, Alex, j'aimerais ça t'interpeller, toi qui as accompagné des femmes en maison d'hébergement. Pourquoi est-ce que des femmes victimes de violences conjugales décident parfois de faire ce type de démarche-là, là, de demander la garde exclusive de leur enfant?
Bien, en gros, c'est pour régler officiellement la situation, là, que ça ne repose plus juste sur leurs épaules si l'enfant est en contact avec le père ou si au contraire, il n'y a pas de contact. En général, les mères, quand elles n'ont pas d'inquiétude sérieuse là, sur la sécurité de l'enfant, en général, ils ont quand même un certain souci là, que l'enfant continue d'avoir un lien avec le père, tant que c'est toujours là, dans son meilleur intérêt. Mais elles vont minimalement souhaiter que les accès, les échanges soient encadrés. Sinon, elles sont toujours à la merci des comportements de l'ex-conjoint, là, du père de l'enfant, qui peut vouloir demander plus de temps ou ramener les enfants en retard, être imprévisible, tout ça. Et on sait que l'exercice des droits parentaux pour les conjoints violents, c'est un levier Les données sur un plateau, comment on dit ça, plateau
Plateau
d'argent,
d'argent. Oui.
c'est un levier là, pour continuer de maintenir, là, d'exercer son contrôle sur l'ex-conjointe et sur les enfants. Fait que c'est une bonne idée pour les mères d'être proactives pour que ce soit clair, qu'elles aient un papier. Souvent, elles disaient, je veux juste un papier qui dit c'est quoi. Je veux pas que ce soit juste moi qui décide ça. C'est aussi un moyen pour assurer la sécurité de l'enfant. Et là, dans notre scénario, ben, la DPJ l'a proposé à la mère. La maison d'hébergement va être en mesure de donner les informations à la mère, peut-être l'aider à trouver une avocate. Et là, sous conseil de son avocate, ben oui, elle va être aussi là, pour faire une demande de garde exclusive. Mais il y a d'autres cas de figure, là. Des fois, des mères reçoivent une requête ou une demande de la part du père. Et là, elles doivent réagir à la demande, ce qui souvent est très déstabilisant, puis elles sentent qu'elles sont désavantagées. Elles ne le sont pas nécessairement, mais bref, oui, c'est une bonne idée d'être proactive.
OK. Puis là, on se rappelle, on n'est pas dans des situations où ce sont des mères hostiles ou qui veulent se venger. On est dans des situations où des mères qui ont souvent des inquiétudes pour la sécurité des enfants, qui décident de régulariser là, tout ça. Puis.
Oui, puis parfois, elles n'ont aucune idée de comment leur ex-conjoint est comme père, parce qu'on sait que c'est des pères qui ont des grandes lacunes dans leur exercice parental et ont souvent ciblé l'enfant directement par leur violence ou indirectement. Donc, des fois, elles sont réticentes à demander à accorder une garde partagée ou des accès élargis, puis c'est pas par hostilité. Souvent, elles disent, ben, j'aimerais que ce soit supervisé parce que je veux savoir comment ça se passe. Je veux savoir comment il est comme père quand je suis pas là pour répondre aux besoins de l'enfant.
Ouais.
Fait qu'elles peuvent demander des accès supervisés pour ces raisons-là, entre autres.
OK. Donc, on a madame hein, qui entend ses démarches. Puis là, en parallèle, monsieur Simon, lui, de son côté, il fait quoi? Il parle à qui? Qu'est-ce qu'il fait comme
Ben, on
démarche?
se rappelle quand même que ici, dans notre scénario, on est face à un père qui a depuis plusieurs années des comportements violents à l'endroit de sa conjointe, que l'enfant vit, cet enfant-là a vécu pendant toutes ces années-là dans un contexte de violence conjugale. On est face aussi à un homme, à un père qui a commis des actes criminels, qui a été reconnu coupable d'actes criminels éventuellement, et qui, certains de ces actes criminels-là, comme la séquestration, impliquaient directement l'enfant. Et rappelons qu'on est aussi face à un père qui, depuis que la mère l'a quitté, n'a pas été présent dans la vie de son enfant, n'a pas manifesté d'intérêt et n'a même pas répondu aux appels ou aux demandes de rencontre de la DPJ, ce qui a amené la DPJ à dire qu'actuellement ce père-là n'est pas impliqué dans la vie de son enfant. Et c'est ce qui les a amenés, entre autres, compte tenu des moyens aussi que la mère avait pris pour assurer la sécurité de l'enfant, à fermer le dossier. Donc, considérer que le développement n'était pas compromis. Donc, je pense que ça, c'est important de situer ça d'abord. Ceci étant dit, c'est pas si rare qu'un père qui, même si pour un certain temps, c'est pas si rare pour un père qui est violent et contrôlant, qui, même si pour un certain temps s'est désengagé, n'a pas manifesté d'intérêt ou une volonté de voir ses enfants ou de s'en occuper, à partir du moment où la mère, la femme qui est victime de cette violence-là, prend des décisions, entreprend des démarches, ça va souvent les faire réagir, ces hommes-là, parce qu'ils sont un peu dans le sentiment où ils sont en train de perdre du contrôle, puis ils vont parfois faire des démarches pour continuer de contrôler leur ex-conjoint, puis contrôler les enfants suite à la séparation. Et donc, ce père-là, dans notre scénario, ben, il reste pas indifférent là, à la demande de la mère, puis il va pas non plus acquiescer à la demande de la mère. Il va le voir comme un affront, il va décider lui-même d'entreprendre des démarches pour obtenir la garde, ou du moins la garde partagée de ses enfants. Il va faire une recherche sur Google ou un autre moteur de recherche pour trouver des avocats qui peut-être sont plus pro-pères ou plus susceptibles de défendre des pères, notamment peut-être des pères accusés de violence conjugale. Et dans ce sens-là, va répondre à la demande de madame en refusant sa demande de garde exclusive et en demandant lui-même la garde partagée de son enfant. C'est important de comprendre dans ce contexte-là que les hommes qui font ces démarches-là, ça ne traduit pas nécessairement un intérêt réel pour l'enfant ou une volonté réelle de passer davantage de temps avec leur enfant. Parce que quand on regarde souvent le schéma passé, c'est pas des hommes qui avaient été nécessairement impliqués positivement dans la vie de leur enfant, mais c'est vraiment une volonté de maintenir le contrôle et le pouvoir sur leur ex-conjointe en instrumentalisant finalement les démarches concernant la garde et les droits d'accès.
Fait que c'est pas tout d'un coup ils veulent passer 7 jours avec l'enfant, là.
Non, généralement, c'est pas un éveil de la fille paternelle instantané. C'est vraiment une façon très efficace, d'ailleurs, de maintenir leur contrôle sur leur ex-conjointe, de maintenir leur ex-conjointe dans l'inquiétude, dans des procédures. Donc, ça reflète généralement davantage ça qu'un intérêt réel là, pour l'enfant ou pour le temps qu'ils pourraient éventuellement passer avec l'enfant. Et il est pas rare que même lorsqu'ils obtiennent par exemple, une garde partagée ou même parfois une garde exclusive, que finalement, ils ne penseront pas nécessairement davantage de temps de qualité avec l'enfant, vont les faire garder, ils vont s'absenter. Donc, on voit bien là, quelle est la volonté réelle derrière ces démarches-là.
OK. Donc, on a madame qui fait ses démarches, on a monsieur qui fait aussi ses démarches en réaction, hein, disons-le. On arrive à l'audience. Alex, qu'est-ce qui se passe dans cette salle-là?
Ben là, déjà, le juge fait face à deux parties. On a la mère qui demande la garde exclusive, le père demande une garde partagée. Sur cette planète-là, le discours du père et son avocat sont bien en ligne avec le discours ambiant de la planète, avec le maintien des liens des deux parents avec l'enfant. Donc, monsieur peut avoir l'air, ben, il peut être un peu avantagé, presque rien à prouver. Vu qu'on parle plus de sécurité, on parle pas de violence conjugale, ça a l'air d'être le passé. Donc, il n'y a pas grand-chose à prouver, contrairement peut-être à la mère qui doit justifier pourquoi elle veut une garde exclusive. Donc, déjà, ça set un peu l'ambiance. Donc, souvent, mais typiquement, là, on pourrait s'attendre à ce que le juge, dans ce scénario-là, peut-être attribue la garde exclusive à la mère. Temporairement, peut-être qu'ils sont encore en maison d'hébergement, bon, ça se peut, mais clairement, va donner des accès assez élargis au père. Certains juges même vont penser qu'il y a un certain rattrapage à faire. J'ai déjà vu ça, donc peut-être 3 semaines direct avec le père, puis après ça, on rentrerait dans quelque chose de plus stable, la garde à la mère, puis des accès élargis au père. Donc, si on retourne au scénario, le juge donne des accès au père, il peut ordonner aux parents de partir à une séance de coparentalité parce que ça va être obligatoire avant de se rendre au fond, au procès. Va mentionner, bon, recommander fortement qu'il aimerait que les parents fassent des séances de médiation. Ils ont 6 rencontres gratuites. Profitez-en, vous êtes supposé être des bons coparents. Donc, la médiation, ça va être une suggestion, mais ça peut nuire aux parents si après, ben, surtout le parent victime, la mère, si elle a refusé. Donc, déjà, ça aussi, ça va placer des choses pour la suite.
Je peux juste clarifier, Alex, parce que dans le fond, c'est recommandé que les parents aillent en médiation sur la planète 3, c'est bien vu. Si madame refuse, c'est pas bien vu pour elle.
Ouais.
Si elle accepte, qu'est-ce qui se passe en médiation?
Ben, si elle accepte, elle peut s'attendre à ce que ça se passe mal en général. Ouais. Pas pour rien là, qu'il y a plein de recherches là, ici, puis en Europe, aux États-Unis, la médiation, c'est vraiment pas recommandé dans les contextes de violence conjugale. Déjà, on devrait être étonné et indigné à chaque fois qu'un juge en parle quand il y a eu de la violence conjugale. Le principe de base en médiation, c'est que les deux parties doivent être quand même d'accord sur la plupart des points. Des fois, on va là juste pour régler un truc de pension. Mais la question des accès, surtout si on évoque des enjeux de sécurité, ça devrait clairement pas faire partie d'un mandat de médiateur, médiatrice. Donc, il y a ça. Il y a des enjeux de sécurité importants, juste physiquement, dans le pratico-pratique, ils se retrouvent dans la même pièce, ils ont le rendez-vous à la même heure, la victime croise son agresseur dans le stationnement. C'est vraiment angoissant là, pour les victimes qui ont eu à faire des rencontres de médiation. Et les médiateurs sont pas formés au contexte de violence conjugale, donc ils peuvent pas nécessairement dépister ou savoir comment intervenir, comment faire des scénarios de protection. Donc finalement, c'est très risqué pour les femmes qui sont, juste pour terminer là, cette parenthèse-là, sont pas en position pour négocier.
Sont devant leur agresseur, finalement.
Ben oui. Oui. Donc, c'est pas recommandé, mais c'est assez fréquent. Sinon, il y a quand même une... comment on dit ça, une exclusion là, dans les situations de violence
Ouais.
conjugale, une avocate, bon, un avocat qui représente ces mères-là peut quand même la référer à une médiatrice ou avocate, avocate médiatrice, pour signer un formulaire. Là, ça se fait quand même bien pour confirmer qu'il peut avoir une exemption de médiation dans ce contexte-là. Ce qui fait que les procédures vont suivre leur cours par la suite, puis on n'en reparlera pas, on n'aura pas besoin que les parents aient fait des rencontres de médiation avant le procès.
OK.
Un beau cadeau de la planète 1.
Oui, quand même.
Oui.
Quand
Oui.
même. Et là, dans cette. Bon, on est à l'audience, le juge recommande certaines choses. Bon, on va faire la médiation et tout ça. Là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là?
Ben, il y a autre chose, hein, parce que le juge, il peut poser plusieurs commentaires, faire des recommandations, ordonner des affaires. Assez rapidement, typiquement dans ces situations-là, on ordonne une expertise psychosociale ou psycholégale. Et là, si on retourne au scénario, ben, le juge, il va exprimer une préoccupation quant à une possible rupture du lien père-enfant. Ça fait peut-être plusieurs mois que l'enfant a pas vu son père. On est sur la planète 3 où est-ce que c'est très, très important. On a une mère qui demande une garde exclusive qui, en quelque sorte, s'oppose à des accès élargis. Donc, il va exprimer ça. Et ça va aussi placer quand même un certain ton là, pour l'expertise qui va suivre. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand on a un père violent qui entend ce genre de discours-là. Donc, c'est ça. Mais en gros, dans toute cette audience-là, cette première audience-là, ou même quand il y en a plusieurs, là, avant que ça mène à une expertise, ben, on ne parle pas de la violence conjugale. Peut-être même que l'avocat ou l'avocate de la mère lui recommande de ne pas en parler ou lui conseille pas d'en parler. C'est vu comme si ça relève du passé, alors qu'on a, comme tantôt je disais, le père n'a rien à prouver. Lui, ben, pendant 3 mois, peut-être, il n'y aura rien fait. Il n'y a aucune information qui atteste qu'il y aurait un processus de responsabilisation ou de changement de comportement.
Il n'y a pas de
Donc,
lien avec la planète 1, là.
non. On part comme du point zéro, puis on veut que l'enfant ait des liens avec les deux parents.
OK. Mais là, même s'il n'y a pas de lien avec la planète 1, on se rappelle qu'il y a quand même un historique documenté de violence conjugale, là. Je veux dire, les policiers sont intervenus, il y a des infractions criminelles, il y a eu arrestation, des procédures en cours, peut-être qu'il est incarcéré, la DPJ a été impliquée, il y a des évaluations, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, on peut penser que le juge va sélectionner un expert qui est sensible à la question de la violence conjugale ou un expert en violence conjugale pour évaluer cette situation-là. Simon, est-ce que je suis optimiste?
Oui, peut-être pas très réaliste dans ce cas-ci, mais on aimerait effectivement que les choses se passent ainsi, d'autant plus qu'on se rappelle qu'on avait, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines ou quelques mois, on était sur la planète 2, on était dans une intervention, suite à l'intervention policière, on a eu l'intervention de la DPJ, et on se souvient que la grande préoccupation de la DPJ dans ce contexte-là était la sécurité de l'enfant. Et que l'intervenant de la DPJ a dit à Madame, si vous ne quittez pas votre conjoint immédiatement, on va vous retirer la garde de votre enfant et on va le placer dans un milieu substitut. C'était ça notre préoccupation il y a quelques semaines sur la planète 2. Et là, on arrive sur la planète 3. Puis là, notre préoccupation, c'est plus la sécurité de l'enfant en lien avec les comportements de son père. En fait, ici, ce qui nous préoccupe, c'est est-ce que potentiellement il y aurait une rupture du lien entre l'enfant et son père? Comment on peut s'assurer le plus rapidement possible qu'on maintienne les liens entre l'enfant et son père? Et comment on peut s'assurer que la mère ne viendra pas interférer avec le maintien de cette relation-là? Donc, on est déjà dans une contradiction totale là,
Oui.
en termes de nos attentes et nos exigences là, à quelques semaines d'intervalle. Après, pour revenir plus spécifiquement à la question de l'expert qui réalisera l'expertise psycholégale ou psychosociale, en fait, même dans les situations, et Alex a raison de dire, la violence conjugale, elle n'est même pas toujours soulevée par les femmes, parfois sous recommandation de leurs propres avocats, mais même lorsqu'on est dans une situation où, par exemple, Madame fait des allégations de violence conjugale pour justifier, par exemple, sa demande d'une garde exclusive. Généralement, évidemment, monsieur nie l'existence de la violence conjugale ou de ses impacts sur l'enfant, va accuser madame de mentir, d'exagérer. Monsieur lui demande une garde partagée, parle de l'importance de maintenir le lien entre lui et son enfant. Donc, on a deux côtés là, où on présente des préoccupations qui sont différentes, hein, de l'ordre de la violence conjugale, l'autre de l'ordre du maintien du lien. Généralement, l'expertise va porter uniquement sur la question du maintien du lien ou sur les préoccupations qui sont exprimées par le conjoint violent ou par dans ce contexte-là. Il y a très, très peu d'expertise là, dont le mandat va être formulé très clairement en termes de d'évaluer, par exemple, la
La
violence
sécurité.
conjugale ou les impacts sur l'enfant ou la sécurité de l'enfant à la lumière du schéma de comportement du parent violent. C'est très, très peu présent dans les expertises, quasi inexistant, alors qu'on va avoir beaucoup plus d'expertises qui vont dire, tu sais, examiner les capacités parentales et le danger de rupture du lien et tout ça. Donc, clairement, déjà, en partant, le mandat qu'on va aller donner à l'expert va généralement très peu toucher explicitement la violence conjugale, va plutôt toucher les relations parent-enfant, les relations entre le père et l'enfant, le danger de rupture du lien. Et malheureusement, les experts qu'on va aller chercher, ben, généralement, vont pas avoir une expertise en violence conjugale, mais vont plutôt avoir une expertise sur la question des relations familiale, de la séparation, parfois même de l'aliénation parentale, du conflit de séparation, du conflit sévère de séparation, mais on n'aura pas du tout la préoccupation de s'assurer que l'expert à qui on va donner le mandat dans ce cas-là a une expertise ou même des connaissances de base sur la violence conjugale. Ça fait pas partie, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette planète-là, ça fait pas partie réellement de nos préoccupations. C'est pas là où on est. On est vraiment sur la question du maintien des liens entre les parents et les enfants. Puis notre expert va être aussi sur cette planète-là et dans cette perspective-là.
Il n'y a pas un peu il y a pas un peu un problème si la mère allègue la violence conjugale et que le père, lui, et son avocat parlent beaucoup du maintien du lien père-enfant, et là, ils prennent une experte qui est experte ben, c'est ça, d'évaluer le lien père-enfant. Est-ce qu'on ne guide pas
Ben,
finalement les conclusions de
ouais, mais je pense qu'il y a deux problèmes. Tu sais, en termes on est dans un système de justice, les procédures devraient être justes. Et c'est clair que pour moi, il y a un problème si on va chercher, lorsqu'on a une mère qui allègue la violence conjugale, puis qu'on a un père qui allègue un danger de rupture du lien ou même l'aliénation parentale. À partir du moment où on va chercher un expert qui est expert sur la rupture du lien ou sur l'aliénation parentale, on donne des moyens supplémentaires au père
Oui.
de prouver ce qu'il allègue et on donne aucun moyen à la mère de prouver elle ce qu'elle allègue parce on va pas
Pas
chercher un
d'expert en
expert qui a
violence.
une expertise en violence. Fait que c'est clair qu'il y a ce problème-là je dirais, de justice au niveau des procédures entre les moyens qu'on donne au père versus les moyens qu'on donne à la mère. Mais au-delà de ça, il y a aussi le problème que, on a documenté là, sur la planète 1, sur la planète 2, les comportements du père, les risques qu'il pose à la sécurité de la mère et de son enfant, et de ne pas en tenir compte lorsqu'on est sur la planète 3, ben, je veux dire, c'est un gros problème, puis c'est un problème qui peut engendrer des enjeux de sécurité pour l'enfant et pour la mère, là. Donc, il y a plusieurs problèmes associés au fait que, effectivement, les expertises sur lesquelles le tribunal se base pour prendre des décisions n'ont pas d'expertise ou de connaissance en violence conjugale et qu'on ne leur donne pas non plus le mandat d'explorer cet élément-là dans leur expertise, là.
Puis Alex, à cet effet-là, comment, bon, admettons qu'un juge ordonne une expertise, comment ça se passe ensuite le contact de cette experte-là ou de cet expert-là avec la famille?
Bien, ils ont quand même une formule là, qu'ils doivent suivre. Bon, une prise de contact téléphonique, des rencontres en personne. Je ne veux pas répéter là, des choses que Simon a dit, mais les questions sont orientées beaucoup sur la coparentalité ou comment chacun des parents perçoit l'autre parent dans son rôle parental, ce qui mène beaucoup d'experts ou d'expertes à dire non, 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 on ne parle pas de violence conjugale, je veux savoir comment cette personne-là est comme parent. Alors qu'encore une fois, on sait, avec la recherche et les connaissances, c'est rien qu'un parent violent, ben, ça transparaît là, dans ses capacités parentales, son exercice parental et la façon qu'il est un coparent.
Alex, je veux juste dire, c'est vraiment
Oui.
ici, on voit que ce qui se passe sur la planète 1, on ne veut pas en entendre
Non.
parler. Ici, on est sur la planète 3.
Oui, donc tout est orienté pour ça. Ce qui donne encore une fois, ce qui désavantage la mère, le parent victime, parce que dès qu'elle exprime une crainte, une réticence, quant au, à l'exercice parental du père violent, c'est perçu comme si elle est hostile ou elle n'est pas capable de mettre de l'eau dans son vin. Donc, il va y avoir des recommandations qui vont adresser ça un peu plus tard, qu'elle ait un suivi pour se défouler, mais qu'elle arrête de faire des procédures puis de parler de violence. Je dis ça presque à la caricature, mais on voit ça souvent. Tandis que du côté du père, il va avoir une grande écoute, un grand accueil de ses préoccupations parce qu'il peut presque être perçu comme la victime de cette hostilité-là ou de, comme quoi il est brimé dans sa relation père-enfant. Donc, c'est sûr que pour des mères victimes de violences conjugales, ce processus-là est très, très difficile. Elles vivent ça très difficilement, mais elles appréhendent aussi qu'est-ce que lui, en connaissance de son schéma de comportement, comment lui il se comporte avec l'experte. Je sais qu'il est capable de manipuler, je sais qu'il est capable d'avoir l'air d'un bon parent, je sais qu'il performe bien sous évaluation quand on le rencontre 1 heure dans un bureau pour mesurer le lien parent-enfant avec les interactions. Donc, c'est une grande source de stress et souvent, à l'issue de tout ça, bon, là, les parents reçoivent le rapport, sont aux recommandations tout de suite, si c'est ça qu'on veut voir en premier. Elles savent que c'est ce que le juge va faire. Et beaucoup de mères, dans une recherche là, qu'on a fait, racontaient que finalement, c'était un processus qui avait été extrêmement éprouvant pour finalement avoir une expertise qui répétait un petit peu, ben, c'est ça, le discours ambiant de la planète droit de la famille avec maintien du lien parent-enfant, recommander une garde partagée, que bon, il n'y a pas vraiment de dangerosité, si même l'expert n'a pas analysé de quelque façon que ce soit la violence conjugale. Et donc, que l'enfant là, devrait avoir plus de contact avec son père. Donc, beaucoup de ressources pour pas grand-chose. Pas plus de sécurité pour des mères qui ont fait l'effort de dévoiler un vécu, le vécu de l'enfant aussi. Et elle mentionnait que pour les enfants, ça avait été extrêmement stressant. Des enfants qui vont être questionnés, qui vont être observés à la fois dans le milieu du père, dans le milieu de la mère ou dans le bureau de l'experte à la cour. C'est super pas personnel, très froid comme milieu. Et un enfant qui peut être sujet à des, ben de l'intimidation ou de la pression de la part du père
Avant
qui est violent. Ben
l'évaluation,
oui,
ben
tu sais,
oui.
quoi dire, quoi pas dire à l'experte. Donc, c'est un recours qui est à questionner puis à revisiter parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas dans les ressources là, qu'on met là-dedans pour finalement un résultat qui n'est pas toujours à l'avantage de la sécurité du bien-être de l'enfant. Et aussi, j'ai vu des situations où est-ce que, on parlait de mandat tantôt, des situations où on commence, il y a des avocates qui travaillent très fort pour obtenir une ordonnance d'une expertise, mais qui clarifie que le mandat de l'expert ou de l'experte va être d'analyser la dangerosité ou les capacités parentales d'un parent, pas nécessairement les deux, mais un parent qui, bon, le parent violent, bon, à la lumière de ses comportements violents. Mais même, on n'a pas fait le saut au complet pour vérifier les compétences de ces experts-là, leur formation. Et ce que dans ces situations, on avait constaté, c'était que ben encore là, on se centre juste sur une vision très violence physique, là. Est-ce que, puis, tu sais, les tests,
L'incident unique.
l'incident unique, la dangerosité en lien avec ces incidents-là, puis le profil psychiatrique ou psychologique du conjoint violent. Donc, pas de diagnostic, pas de dangerosité, c'était souvent ça la conclusion, alors qu'on sait que les conjoints violents n'ont pas toujours un diagnostic et peuvent modifier leur réponse en sachant très bien quel genre de résultat ils veulent pour leur évaluation. Donc, c'est ça. Je
Puis,
m'arrête là.
même si on a un problème de santé mentale, ça n'explique pas la violence
Non,
conjugale, fait qu'il y a comme un
non
problème,
plus.
un autre problème
Ouais, il
aussi.
faudra un expert très, très, très formé pour pouvoir articuler c'est quoi les liens. Est-ce que ça cause ou est-ce que ça exacerbe la violence? Ouais.
Fait qu'Alexandra, dans ces situations-là, là, nous, dans cette situation-là en particulier, là, notre situation familiale, qu'est-ce qu'on a comme conclusion?
Bon, ben là, l'experte a terminé son évaluation. Elle conclut que la mère a des craintes démesurées, parce qu'on n'est pas d'élément de violence conjugale, selon l'experte, des craintes qui ne seraient pas justifiées. Et là, il y a quelque chose, là, quand on donne un poids à l'expertise, les juges considèrent que bon, c'est des travailleurs sociaux ou dans les cas d'expertise psycho-légale, comme dans notre scénario, bien, ça va être une psychologue. Elle peut faire beaucoup de choses que des juges ne peuvent pas faire. Donc, elle peut, elle, il ou elle, mentionner qu'il y aurait un risque d'aliénation parentale, par exemple. Et ça va passer, personne ne va questionner ça, sauf l'avocat de la mère. Et elle peut mentionner ça, elle peut dire, ben, je recommande une garde partagée pour éviter que cette situation-là en vienne à de l'aliénation parentale. Et ce qu'on voit souvent, il peut avoir une mention comme quoi, ben, une petite indication au juge et aux deux parties, que si la mère persiste à avoir des comportements comme ça, ou à soulever la violence conjugale, ou soulever des craintes sur les contacts parents-enfants, ben là, le tribunal devrait considérer la garde exclusive au père. Donc, c'est ce qui arrive dans notre scénario.
Donc, dans ces situations-là, OK, fait que là, on a l'expert ou l'experte qui a fait l'évaluation, on a cette conclusion-là, mais là, l'experte, c'est une personne parmi d'autres. Dans notre situation, il y a quand même des policiers, la DPJ, il y a la maison d'hébergement, le groupe pour conjoints violents. On a plusieurs personnes qui peuvent faire état de la situation de violence conjugale. À quel point est-ce que ça va jouer la conclusion de l'expert, Simon? Ou
Ben,
l'experte?
l'expert a un pouvoir d'influence énorme au niveau des tribunaux. On sait que lorsqu'il y a une expertise, les juges ont tendance à aller dans le sens de l'expertise. Les juges doivent d'ailleurs justifier. Hein, s'ils décident de rejeter les conclusions de l'expert, ils doivent le justifier dans leur jugement. Et on sait que, dans le fond, ils ont un pouvoir très important. Et on a vu certaines situations où, effectivement, on avait plein d'autres acteurs qui avaient une vision similaire, qui rapportaient les mêmes faits, les mêmes préoccupations. On avait une femme, des enfants, une maison d'hébergement, des policiers, des psychologues de l'IVAC, qui rapportaient toutes et tous les mêmes faits, les mêmes préoccupations. Et malgré ça, une experte arrive, fait une évaluation, produit une expertise psychosociale qui va plutôt dans le sens de ce qu'Alexandra décrivait, et le juge va aller dans le sens généralement de l'experte et va discarter là, toutes ce qui aura été apporté par les autres témoins ou les autres personnes impliquées dans le dossier. Donc oui, l'expertise, c'est un élément très, très important dans ces dossiers-là. Et malheureusement, ben, les lacunes qu'on voit au niveau des expertises en sont des effets très, très dommageables pour les femmes et les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale.
Et vu le poids que ça a sur les jugements, on peut se questionner là, sur, on peut s'inquiéter, je pense, de la contribution des experts, des expertises à une jurisprudence qui écarte complètement la question de la sécurité de l'enfant, l'évaluation de la violence conjugale, puis finalement qui nuit aux enfants et leur mère.
Puis là, dans notre situation, on a fait un petit peu le tour de l'expérience de cette famille-là sur la planète 3, mais on pourrait, tu sais, dire qu'est-ce qui pourrait arriver 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, parce que cet enfant-là, maintenant, se retrouve, tu sais, la moitié du temps avec un père qui l'a séquestré, de qui elle a peur, de qui on peut penser qu'il va avoir des conséquences sur cet enfant-là, cette mère-là qui va être toujours inquiète. Donc, on peut penser que ça a des conséquences assez importantes, hein, dans la vie de ces femmes et ces enfants-là.
Oui, et d'autant plus que dans ce genre de situation-là, si l'enfant effectivement exprime de la peur, éventuellement exprime des réticences ou tu sais, réagit très fortement lorsque le père vient la chercher à l'école, par exemple, pour les échanges et tout ça, parce que notre angle d'analyse, c'était celle du conflit de séparation et qu'on a discarté complètement la violence conjugale de l'analyse, ben les réactions de l'enfant risquent d'être aussi interprétées à la lumière du conflit de séparation. Donc, on n'arrivera pas à la conclusion que si l'enfant réagit de cette façon-là, c'est parce
C'est
que
qu'on a
le
fait une
père a eu
erreur.
des comportements et qu'on n'a pas pris la bonne décision. On risque d'arriver plutôt à la conclusion que si l'enfant réagit comme ça, c'est que la mère continue d'alimenter le conflit, continue de transmettre ses inquiétudes ou son anxiété à l'enfant, et on pourrait se retrouver, si le juge éventuellement suit les recommandations de l'experte, sans même avoir observé des comportements problématiques chez la mère, à conclure que la mère a des comportements aliénants qui continuent d'avoir des conséquences sur l'enfant, puis la mère pourrait éventuellement perdre la garde complète de l'enfant pour qu'elle soit octroyée au père. Un père qui, sur la planète 1, était vu comme un auteur d'actes criminels dangereux, qui sur la planète 2 était vu comme un parent dangereux, puis ici est vu comme un père à qui on octroie la garde complète.
Ça devient un peu la prophétie autoréalisante, dans le fond, là. Dans le fond, si l'experte conclut à quelque chose et ça va bien, c'est parce que c'était la bonne décision. Puis si l'enfant proteste ou résiste ou a peur, ou ben là, ça vient encore aussi, ça vient aussi confirmer que c'était une situation
de conflit.
De conflit. Fait que, quand même des problèmes importants. Fait que, je pense que on pourrait parler de tous les problèmes sur la planète 3 parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'à cette étape-ci, on voit un peu le lien entre notre situation familiale et les problèmes et les incohérences qu'on retrouve sur chacune des planètes. Alex et Simon, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur la planète 3?
Ben, peut-être juste deux petites choses qu'on n'a pas mentionnées. Il peut y avoir des contre-expertises. Ça peut être bien. Je ne vais pas donner des conseils, mais tu sais, ça existe. Puis bon, des fois, ça va à l'infini, puis les juges ne sont plus capables parce qu'on ne veut pas non plus faire trop de débats là-dessus. Mais ça peut être quelque chose à quoi on pourrait s'attendre avec notre scénario, là, que quelques mois plus tard, ben, peut-être des nouveaux événements où le procès n'a pas eu lieu encore, le temps s'est écoulé, il faut réévaluer. Mais là, ça serait plutôt un complément d'expertise. Donc, l'expertise psychosociale ou psycholégale, ce n'est pas nécessairement juste une voie définitive. Ça peut être plus évolutif. Et la question de la représentation des enfants, on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si vous voyez ça souvent, mais des fois, j'ai l'impression que l'expertise est plus choisie comme moyen pour entendre l'enfant, alors qu'on ne l'entend pas, comme tu disais, si bon, on pense qu'il est contaminé par la mère, alors que ça devrait être, me semble que ça devrait être plus fréquent que ça, qu'un enfant puisse s'exprimer sur ses souhaits, sa parole, son expérience, pour que le juge puisse l'entendre.
Oui. Mais en même temps, je vais plugger encore le D. Bancroft parce que je l'entendais dans un webinaire récemment où il disait, dans ces procédures-là, quand l'enfant nous dit qu'il veut voir son père, on est à l'écoute de l'enfant. Ouais. Si l'enfant dit autrement, là, on ne peut pas écouter l'enfant parce qu'il est aliéné.
Ouais.
Fait qu'on l'écoute quand on veut l'écouter.
Ouais. C'est très... Cette citation-là de Bancroft, elle représente bien la planète...
Voilà qui conclut ce qui se passe sur les trois planètes dans la situation familiale qu'on vous a présentée. Et là, dans le prochain, on a parlé beaucoup des problèmes, on a parlé des incohérences, mais là, on va être positif et optimiste dans le prochain épisode parce qu'on va aborder les pistes de solutions.